Avant de commencer, je voudrais vous signaler, mais rappelez-moi de vous le rappeler à la fin du cours, étant donné que ce Pessah est un Pessah exceptionnel du point de vue des halakhot, on vous a préparé en français un résumé des différentes dispositions à savoir pour cette année. Puisque comme vous le savez, Pessah va commencer Motsaï Shabbat, c'est un peu compliqué. Alors c'est Pierre Simsovic qui est le responsable de la section de la Shvela. Je ne sais pas comment on dit ça en français, la plaine. Vous savez, quand on arrive là-bas, on se demande, qu'est-ce que je fais là? Ça s'appelle la Shvela. Et vous l'avez à la sortie sur la table, ceux qui en ont besoin, vous en prendrez un. Bien. Et comme vous le savez aussi, on n'aura pas de Shabbat Hagadol organisé. Et comme chaque année, c'est la première fois que je pense que c'est la première fois qu'on interrompt depuis qu'on avait l'habitude du Shabbat Hagadol, je ne sais pas. Enfin, le Shabbat Hagadol existera, mais en famille, puisqu'on ne peut pas voyager. Et alors, on a prévu de faire un Shabbat après Pessah. Et vous aurez les renseignements par les voies habituelles. Alors, nous commençons cette semaine à lire le troisième livre de la Torah, qui est le livre de Vaïkra. Vous allez prendre donc le livre, je vous indique. Bon, c'est tout au début, alors c'est pas la peine que je vous indique les références. Et on aura aussi besoin d'un verset dans Bamidbar. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de préparer les deux. Hein. Mais pour le moment, prenez Vaïkra d'abord et Bamidbar ensuite, on aura besoin. Alors attendez, je vais vous donner tout de suite le. Ça fait rien. Vous suivrez un sur deux. Puisque vous n'êtes pas tellement nombreux, il y a sûrement assez de Bamidbar. Dans tous les cas, je vais vous donner tout de suite le verset dans Bamidbar dont on va avoir besoin. Préparez-le, qu'on ne soit pas dérangé pendant l'étude. Alors, vous prendrez dans Bamidbar le chapitre 28, verset 23. Préparez dans Bamidbar le chapitre 28, verset 23. Bon. Et on va commencer dans Vaïkra. Alors, avant de voir les versets que je voudrais étudier avec vous, et les différents sujets que nous allons essayer d'aborder, puisque c'est la première paracha du livre, je voudrais quand même commencer par une petite introduction que je souhaite petite sur le sujet général de Vaïkra. J'attends qu'on puisse commencer, qu'il n'y ait pas de bruit. Le livre de Vaïkra s'appelle dans la formulation talmudique classique Torah Kohanim, c'est-à-dire la Torah propre au Kohanim, propre au prêtre. Je vais essayer d'expliquer une manière de rendre compte de s'être intitulé. En français, les traducteurs ont traduit ça par le Lévitique, c'est assez analogue, mais c'est pas exact. Les Kohanim, comme vous le savez, étaient la branche aînée de la tribu de Lévi. Et le Lévitique, ça signifierait le code ou le statut propre aux Lévites. Mais bien que les Lévites avaient un statut par rapport au problème de la sainteté, comme nous allons voir, c'est le sujet central du livre, différent des autres membres d'Israël, malgré tout, ils n'étaient pas au niveau de la sainteté des Kohanim. C'est un sujet pour lui-même, mais retenez qu'il y avait trois niveaux de relation à la sainteté dans le peuple d'Israël. Les Kohanim au niveau le plus haut, les Lévites. Et les Kohanim et les Lévim sont à part du reste des tribus d'Israël, et d'autre part, la sainteté propre à l'ensemble d'Israël. Je vous donnerai un moyen, comme on dit, mnémotechnique, je crois qu'il y a plus que cela. D'ailleurs, c'est un enseignement de la Kabbalah. On n'étudie pas comme ça. Retenez le mot de Keli, Kaf, Lamed, Yud, Kohen, Lévi, Israël. Et il y a malgré tout une définition qu'il faut retenir. Bien qu'il y ait des différences du point de vue de la sainteté entre les Kohanim, les Lévites et Israël, tout cet ensemble, Israël, y compris les Lévites et les Kohanim, forment un même ensemble par rapport à la mise à part de la sainteté. Retenez en français la traduction du mot kadosh, la traduction fondamentale, c'est d'abord mise à part. Mais mise à part, dans une signification hébraïque différente d'un autre terme hébreu qui veut dire mis à part. Et ça, on va commencer à réfléchir là-dessus, ça nous permettra de mieux comprendre la signification hébraïque du mot kadosh. Il y a différents niveaux de sens. Je suis simplement au premier. Le sens qui a pour synonyme en hébreu le mot parouche. Parouche, mis à part. Les prouchim, les pharisiens, et étymologiquement. L'histoire a fait que ce mot est devenu un mot négatif dans le vocabulaire français. Il suffit de mettre un dagège dans le P pour savoir que tout va bien. Mettez un dagège, c'est parisien. Mais ça veut dire un peu jésuite, si vous voulez, finalement, dans le vocabulaire courant. Mais pharisien, étymologiquement, ça veut dire ceux qui avaient le parti pris de sainteté, même s'ils n'étaient pas Kohanim et Lévi. Retenez bien cela. La conduite des Prouchim dans les tribus d'Israël, c'est à partir du temps du deuxième temple que cette catégorisation apparaît. Vous savez qu'il y avait différentes tendances dans la société judéenne. Il y avait les Sadducéens, il y avait les Esséniens, il y avait les Pharisiens. Il y avait toute une foultitude, une multitude de sectes. Et une discussion chez les historiens de la théologie et les théologiens de savoir de laquelle de ces sectes est sorti le christianisme. La grande discussion, c'est est-ce qu'elle s'est sortie des Esséniens, est-ce que c'est sorti des Pharisiens. Moi, je suis plutôt penché vers la thèse qu'a défendue André Néer contre Lévi Dupont-Sommer. C'était les grands spécialistes de ce problème dans la génération précédente. C'est que le christianisme apparaît plutôt comme une secte hérétique des pharisiens plutôt que comme une secte hérétique des sadducéens. Et d'ailleurs, la découverte du manuscrit de la Marmotte montre qu'il en est plutôt ainsi. Quoique, du point de vue du calendrier, les chrétiens ont un calendrier plus proche que le calendrier sadducéen, c'est-à-dire ni essénien ni pharisien. Comme vous voyez, c'est très compliqué, laissez ça aux spécialistes, mais dans tous les cas, je reviens à l'étymologie de cette définition du mot kadosh. L'essentiel qu'il faut mettre en évidence tout de suite, c'est qu'on ne peut pas traduire ce mot-là par le terme français de sacré. De cela, je dirai quelques mots tout à l'heure. Il vaut mieux préférer le terme de saint. La kadusha, c'est la sainteté, c'est pas le sacré. Je sais bien que pour beaucoup de gens, c'est presque synonyme, et même qu'il y a une coquetterie à dire sacré, ça fait plus saint que saint, comme on dit plus japonais que là, les chinois. Mais, en tout cas, M. Levinas, dans un de ses ouvrages, a donné des repères très importants de la distinction entre le sacré et la sainteté. Si vous voulez, je dirais maintenant, tout de suite, quelques mots à ce sujet. Et je reviens quand même à la définition du terme kadosh. C'est que le sacré va du côté de la violence, toujours. Il y a un parallèle entre le sacré et la violence. Et alors que la sainteté va du côté de la morale. Il y a une identification entre kdusha et morale dans l'enseignement de la Bible. Alors que le sacré, dans l'immense majorité des religions, n'a a priori forcément rien à voir avec la morale. On peut être un homme voué au sacré et être complètement en dehors de toute conduite morale, de toute intention morale, de toute vérité morale, de toute sensibilité morale. Et d'ailleurs, l'histoire des religions le montre, et l'histoire contemporaine d'autant plus. Vous avez des tendances dans les grandes religions modernes, et surtout dans les sectes d'ailleurs, où on voit bien que être voué au sacré, ça ne passe pas forcément vers ce dont parle la Bible lorsqu'elle parle de la kedusha, qui est la sainteté qui s'identifie avec la morale. Vous voyez à quel point c'est différent. Alors, il y a un auteur français récent, très anti-juif d'ailleurs, je dois vous dire, son nom m'échappe. Vous savez, les problèmes de mémoire, c'est à cause des anti-juifs. René Girard. Voilà, vous avez deviné. Qui d'ailleurs, dans sa jeunesse, avait fait une étude qui avait paru dans la revue Esprit, qui s'appelait « La violence et le sacré ». C'est un thème très connu dans les universités de philosophie. Et qui, dans un autre ouvrage, se dévoile beaucoup plus antisémite, anti-juif, je dirais, que dans le premier, et qui fait tous ses efforts, tous les efforts possibles et imaginables, pour distinguer le sacré de la violence, et il s'en sort pas. Parce que la violence et le sacré, c'est la même chose. Je n'aurais pas dû citer son nom, ouvrir une parenthèse, enfin, puisque je l'ai fait, il essaye d'opposer la sublimation des sacrifices dans le rite chrétien la violence du sacrifice dans le rite juif. Et justement, c'est notre sujet, d'ailleurs, par un autre biais. Et alors, j'ai lu attentivement son livre qui a paru il y a une dizaine d'années. J'ai même été tenté de répondre. Et puis je me suis rendu compte que c'était vraiment inutile. Il y a beaucoup plus de... Il y a des passions a priori qui font qu'aucun dialogue n'est possible. Il y a une réappropriation de l'enseignement de la tradition juive sur la Bible sans jamais rien citer des sources juives. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'existence du judaïsme serait persuadé que la Bible, c'est un livre gréco-latin, surtout grec d'ailleurs. Et alors qu'en réalité, je suis très très schématique et je n'ai pas le droit, mais ça ferait... Le rite chrétien est basé sur une symbolique de la violence du sacré, sur la violence la plus abominable et la plus impure, mais symbolisée, de telle sorte d'évacuer le sacré dans la cité. Alors, il y a une déculpabilisation de la violence du sacré, je dirais, de telle sorte d'évacuer la violence dans la cité. Il y a une déculpabilisation de la violence du sacré à travers le rite chrétien, je vous dis ça en grand flash, si vous voulez. Mais ce qui m'a frappé, c'est la violence de son style contre le judaïsme. Et en s'appropriant toutes les sources qu'il utilise, mais sans jamais rien citer des sources juives. Il y a ce que Madame Amado Valensi a l'habitude d'appeler, et c'est très très exemplaire d'ailleurs dans le cas de René Girard, le refoulé de l'Occident. Le refoulé de l'Occident, c'est les sources juives de la civilisation chrétienne. Mais alors ça part avec une violence considérable. Et alors, je vais terminer cette parenthèse, mais je regrette d'avoir été si schématique. Peut-être on reprendra une autre fois. Le rite principal du sacrifice qui est censé remplacer les sacrifices du temple de Jérusalem, qui est donc le rite de la messe chez les chrétiens, surtout chez les catholiques, c'est un rite du crime le plus abominable. Un père qui tue son fils pour le salut du monde, dans l'impureté la plus absolue de l'Immaculée Conception, je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a derrière, Ken, et dans l'idolâtrie la plus énorme, c'est l'homme qui se prend pour Dieu. Alors, c'est la récapitulation de tout ce qu'il y a de violent dans les rites païens, mais sublimé, symbolisé, de telle sorte d'évacuer la violence du sacré. Mais cette thèse est une thèse formulée de manière anti-juive. Si ce bonhomme n'était pas anti-juif, les juifs et des théologiens de son genre auraient pu collaborer sur ce problème de la différence entre la sainteté et le sacré. Bon, je crois que j'en ai dit assez pour vous donner des cauchemars. Alors je m'arrête là. D'ailleurs, je ne sais pas si... Ça, c'est... Des travaux sont en cours. Et d'ailleurs, je dois vous dire que les rabbins essayent empêcher ces travaux-là par des psychanalystes juifs qui s'occupent des questions d'antisémitisme chrétien. Et vous savez que dans le monde de l'intelligentsia juive, je connais surtout ceux qui sont de langue française, il y a énormément de périphéries autour de la Bible et des spécialités de ce genre. Voilà. Des études psychanalytiques de l'origine de l'antisémitisme chrétien. Et alors, il y a des thèmes qui sont d'une vérité aveuglante, mais qu'on ne devrait plus utiliser parce qu'ils sont dépassés dans l'histoire de l'Occident. Parce que se passe-t-il dans ce rite du sacrifice de la messe? Eh bien, je ne veux pas employer des mots grossiers en français, on mange du juif et on boit son sang. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Okay. C'est une manière rituelle, théologique, d'évacuer la violence du sacré des pogroms. On fait ça à l'église, symboliquement, religieusement. Alors, je ne sais pas si vous voyez juste où ça va. Je dois vous dire que les rabbins qui sont au courant de ces recherches-là font tout ce qu'ils peuvent pour les empêcher, mais ils n'y arriveront pas. Vous savez, les psychanalystes, ça existe. Je reviens toi, tu es au courant. Okay. Alors, je reviens comme les journalistes. Okay. Ça existe, on ne peut pas les éviter. Je reviens au sujet. En ajoutant simplement un thème qui me paraît important, c'est que précisément dans ce type de religion, où on a tendance à ne pas savoir distinguer la sainteté du sacré, à renvoyer le sacré à son origine païenne. D'ailleurs, c'est un mot latin en français. Un mot latin qui renvoie en latin à l'idée d'une sorte de substance, de fluide, de réalité mystérieuse qui serait la présence du Dieu dans les choses et que finalement Descartes a essayé d'évacuer, mais qui n'est pas arrivé à évacuer de la mentalité philosophique chrétienne. Mais Descartes, lui, est arrivé à l'évacuer. Je refais la parenthèse de l'histoire de la philosophie. C'était pour les spécialistes qui ne sont pas dans la salle. Mais en tout cas, pour revenir au sujet, qu'est-ce que je disais avant Descartes ? Oui, c'est le problème de ceux qui n'arrivent pas à distinguer la sainteté du sacré, c'est-à-dire à comprendre cette identification entre la sainteté et la morale, alors que le sacré, c'est la religion en dehors de la morale a priori. Le salut n'est pas cherché à travers la morale, le salut est cherché à travers une stratégie qu'on appelle mystique, mais qu'on pourrait appeler magique, et qui, toujours, renvoie à des comportements de violence, en particulier le sacrifice du Fils pour sauver le monde. Et lorsqu'on sait que ce Fils représente Israël, on a compris de quoi il s'agit, dans les problèmes sociologiques du sacré et de la violence. Moi, quand j'étudie ces choses-là, je suis toujours étonné du courage des Juifs de vivre dans ces civilisations-là. Parce que, sachant de quoi il s'agit, eh bien, ils s'entêtent à dire « nous avons une mission chez eux, laquelle ?» Leur apprendre, tu apprendras ton prochain comme toi-même. Ça fait 2000 ans qu'ils l'ont lu dans une Bible où il y avait écrit tu aimeras ton prochain sauf juif comme toi-même. C'est pas écrit comme ça, mais c'est comme ça qu'ils disent. Alors, quoi qu'il en soit, je refais malgré tout cette parenthèse. Il faut pas généraliser. Mais je ne veux pas généraliser. Il y a tout un mouvement dans les églises, je dirais pas seulement dans l'église, de découverte de cela avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de gêne, avec beaucoup de stupéfaction parfois. Et c'est un mouvement qui est déjà bien amorcé depuis la découverte de la Shoah, mais qui commençait un peu avant. Et ça finira par j'espère en tout cas, par être fécond, mais il faudra du temps. Il y a une réalité là qui vient, je crois, de cette distinction que j'essaie de formuler de différentes manières. Ce sont des civilisations qui sont habituées à penser le sacré en dehors de la morale. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément immoral, mais l'entreprise du sacré, surtout lorsqu'on la vit en tant que voie du salut, elle est en dehors de la morale, amorale. Un ecclésiastique chrétien vraiment orthodoxe serait scandalisé à l'idée que le salut passerait par la morale. Scandalisé parce que pour lui, c'est le blasphème d'orgueil. Ça, c'est l'orgueil juif, de croire qu'on peut être moral. Oui, à quel point c'est compliqué, ces problèmes-là. Hein. Bon, mais pour revenir à notre problème, il y a une définition du mot de saint appliqué à l'homme, les saints, qui se rattache à cela. Dans ce type de sensibilité religieuse, le saint, ça va après la mort. Ce sont les morts qui sont saints. Les saints sont morts. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Alors que lorsque nous arrivons dans la Sidra de Kedoshim, dans le livre de Vayikra, nous verrons que pour le judaïsme, c'est tout autre chose. C'est dans la vie, c'est les vivants qui sont Kedoshim. Vous comprenez ? Je vous prends. Est-ce que c'est clair la différence ? Ce n'est pas le sujet de l'étude, mais je voulais l'indexer à la première distinction. Quand on parlera de Kedusha, de Kadosh, de Kedoshim, ce n'est pas du sacré qu'on parle. C'est de la sainteté. Et par rapport à la morale, je vous donnerai une définition qui me paraît la plus féconde, la plus simple que nous avons reçue du Rav Kook. C'est qu'il y a différentes valeurs morales. Le drame de la conscience morale, c'est que les valeurs morales sont divergentes. Elles sont toutes vraies, toutes importantes, mais elles divergent et parfois elles se contredisent. Vous connaissez les analyses fondamentales du vocabulaire du Midrash, justice et charité, par exemple. Justice est une valeur morale, charité est une valeur morale, et cependant, elles se contredisent. Non seulement elles divergent, mais elles sont exclusives l'une de l'autre. J'ai souvent l'habitude de le répéter, et je le répète, parce qu'il faut bien le comprendre pour s'imprégner de l'exigence d'unité des valeurs, propre au monothéisme hébreu, de la Torah, c'est que lorsqu'on est juste, on n'est pas charitable. Et lorsqu'on est charitable, on n'est pas juste. Alors quand est-ce qu'on sera moral ? Vous comprenez ? Parce que être juste, être moral, mais d'une morale qui n'est pas celle de la Torah. Ce n'est pas celle que Dieu veut, puisqu'il nous a donné à être une conscience qui est sollicitée par l'absolu opposé. Être charitable, c'est être moral, mais c'est pas la vérité morale. La vérité morale, ce serait l'unité des deux. Or, l'unité des deux est surhumaine. C'est une des raisons pour laquelle nous savons que la Torah doit être révélée. Parce que c'est pas aux prises de la conscience humaine de savoir comment se comporter pour être l'homme de conduite de l'unité des valeurs, par exemple dans ce problème, simultanément juste et charitable. C'est ça ce que cherche la halakha. Mais lorsqu'une halakha bascule uniquement du côté de la charité, vous avez les églises réformées, enfin les synagogues réformées. Et puis, lorsqu'elles basculent uniquement du côté de la rigueur, vous avez les synagogues dites orthodoxes. Okay. C'est dans le peuple juif, mais c'est des tendances qui risquent d'être divergentes parce que on a esquivé l'exigence a priori de la halakha qui est celle de l'unité des valeurs. Est-ce que c'est clair? Si un jour on prend des exercices dans le Talmud avec ça, lorsque dans une souga du Talmud, on cherche quelle est la halakha. Rabbi Intel dit, elle sera comme ça. Et on peut démontrer qu'elle peut être comme ça. Et puis, Rabbi Intel, un autre tel, enfin Ploni Almoni, se lève et dit tout le contraire. Il dit, non, c'est comme ça. Et on peut démontrer que c'est comme ça. Et finalement, le maître de la génération se lève et dit, halakha, comme un troisième qui a dit que. Alors, vous comprenez? Je schématise pour vous donner l'exemple. Un a dit, Biprinat Chesed, l'autre a dit, Biprinat Din, et la halakha décrète, Biprinat, l'unité des valeurs. Ça ne veut pas dire ce qu'on dit les autres, c'est faux. Ce serait vrai si tous les juifs étaient comme un tel, ou comme un tel. Ce serait vrai pour les juifs qui sont comme un tel. Mais pour la communauté juive, c'est l'unité des valeurs. Est-ce que c'est clair? Et c'est pourquoi vous trouverez que dans la communauté juive traditionnelle, les options individuelles sont permises à condition qu'elles restent individuelles. Si elles veulent s'imposer comme étant la règle collective, ça devient hérétique. Mais c'est très paradoxal. Alors que tant que ça reste option individuelle, c'est kasher. Dès que ça veut s'imposer comme règle commune, ça devient hérétique, ça devient une secte. Et ça a été la naissance des sectes au temps du deuxième temple. Peut-être qu'un jour on fera des exercices dans le Talmud où vous voyez ça de façon plus concrète sur des exemples. Et alors, je reviens en tout cas au sujet. C'est que d'où j'étais sorti pour vous parler de cela, qu'il y a des sensibilités religieuses qui indexent la sainteté à la mort, alors que pour la Torah, c'est la vie qui est sainte. Oui, par rapport à la morale, ce que nous avons reçu de Rav Kook, c'est que lorsqu'il y a unité des valeurs morales, lorsque les valeurs de l'absolu convergent et s'unifient, la sainteté apparaît. La sainteté, c'est l'unité des valeurs morales. Et vous voyez à quel point on est loin du sacré. Est-ce que c'est clair? Et surtout, les dégâts qu'a pu faire pour la vie spirituelle juive le fait d'utiliser une langue très belle d'autre part, qui a sa propre cohérence, comme le français, pour traduire la Bible. Parce que le français renvoie à un univers du sacré, et alors que nous voulons parler de la sainteté, et que ça n'a rien à voir. Actuellement, il y a dans les chaînes de télévision françaises un film sur Charlemagne. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ça m'appelle un chant, quand j'étais jeune, Sacré Charlemagne. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais alors je vais vous dire les associations d'idées qu'une expression sacrée Charlemagne me reviennent de ma jeunesse. C'est la croix et l'épée. Alors on se sert de l'épée, et quand on a fini, on la retourne, et on fait la prière. Ça, c'est sacré Charlemagne. Il était le fer de lance de l'Église. Je ne sais pas si vous savez ça, le fils du pape. Bon. Et puis, d'ailleurs, il avait des conflits avec le pape. Son rêve, c'était le pape ôté. pour revenir au... C'est son père qui s'appelait Pépin. Oui. En tout cas, pour revenir au... pour revenir au sujet. Ce sont deux perspectives qui, à la racine, pourraient se ressembler, mais qui finalement sont extrêmement différentes. Et il me semble que la réaction protestante contre le catholicisme avait aussi ça comme motivation, d'essayer de retrouver une moralité dans le sacré, plus proche de la sainteté. Au temps où il y a eu la réforme, surtout chez Luther, je ne sais pas si vous avez lu Luther, alors si vous n'avez pas lu Luther, lisez Calvin, mais dans tous les cas, on voit cette... Malheureusement, il me semble que dans beaucoup d'églises protestantes, ça a basculé dans le puritanisme, une sorte du sacré de la morale, si j'ose dire. En fait, c'est notre problème. Alors, je veux simplement, pour terminer cette première, ce premier coup de projecteur, je voudrais te parler d'une expression folklorique en hébreu qui semble contredire ce que je viens de dire. Peut-être certains d'entre vous y ont pensé. Quand j'ai dit que la sainteté, c'est dans la vie, alors que pour d'autres sensibilités religieuses, c'est après la mort. Ben, c'est l'expression « aharemot kudoshim ». Vous avez remarqué ça? Alors, je vais vous parler de ça. C'est la suite de deux parashiyot dans le livre de Vayikra. Il y a d'abord « aharemot » qui raconte ce qui s'est passé après la mort des enfants d'Aaron, « vayi aharemot bnei Aaron », et ensuite « kudoshim diyul kadoshani ». On étudiera ça quand on y arrivera. Alors, dans le folklore juif, on a fini par prendre l'habitude pour dire ce qui se passe quand les rabbins font leur discours funéraire. Tout le monde était des saints, tous. On n'a jamais vu au cimetière quelqu'un qui n'ait pas été un tzaddik. Vous avez remarqué ça? Je dois vous dire que c'est une halakha. Dès que quelqu'un est mort, on doit dire ce qu'on peut dire de louange de lui. C'est interdit de mentir, mais on s'arrange. Mais c'est une chova. C'est une obligation de dire à côté du mort avant qu'il soit enterré tout ce qu'on peut dire de louange de lui. Il y a des raisons profondes, je ne vais pas faire de la mystique macabre et morbide, il y a des raisons profondes pour ça. Mais ne vous trompez pas, ce n'est pas parce que nous avons cette expression « aharemot kudoshim », ça veut dire que c'est après la mort qu'on devient saint. Okay? Il n'y a que ceux qui ont été saints dans la vie qui sont saints après la mort. Et c'est ça que ça veut dire. C'est après la mort de quelqu'un qu'on sait s'il a été saint. C'est au moment de sa mort qu'on sait qui il a été. Et se récapitule le fait que s'il a été saint dans sa vie, alors il est saint dans sa mort. Et après, il y a des preuves, les miracles qui se font autour de sa tombe. Et pas ceux qu'on invente, ceux qui se font vraiment. Tout ça, ça existe, mais il faut être extrêmement circonspect. Il faut être extrêmement plus que prudent. Il faut être adulte. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais il y a un verset qui se réfère, je n'ai pas eu le temps de chercher la référence, mais si vous la voulez, je peux vous la chercher, qui le dit très clairement. « Hen bikdoshai loyam, bikdosham loyamin. » La Gemara dit, on a confiance en personne jusqu'au jour de sa mort. Quelqu'un qui est réputé comme étant un tzaddik, on le sait que le jour de sa mort. Parce que même un jour avant, il peut changer. Dieu n'a pas confiance dans ses saints tant qu'ils sont en vie. C'est donc bien en vie, quand ils sont en vie, qu'on les appelle ses saints. Même un cadeau, je peux trébucher à la fin. Je ne sais pas si c'est clair celui-là. Et même la pire des crapules peut revenir de la chasse et du chasse et faire tchoua. Non, la chasse était Esaü. Et vraiment s'occuper du vrai chasse, le Talmud. Vous avez compris ce que j'ai voulu dire, Ken? C'est dans la vie que quelqu'un est appelé Kadosh. Et parce qu'il a été Kadosh dans la vie, alors il est Kadosh. Mais cette mentalité qui va dans le sacré, être saint après la mort, tout ça, vous le trouvez dans la civilisation romaine, dans la civilisation grecque. C'est à la mort qu'on décrétait les gens immortels, demi-dieu, dieu. N'apprenez pas cela, mais ça existe. Ça vient de cette mentalité-là. Est-ce que c'est clair? Alors, je vais l'apprendre. D'autre part, ce qu'il faut savoir, je reviens au premier point, c'est que nous avons deux définitions de la sainteté et une définition négative. Le parti pris de sainteté dans une attitude négative. Vous me direz si c'est suffisamment clair. Et ce parti pris de sainteté dans une attitude négative est d'abord indiqué par le terme de parouche, se séparer de. C'est-à-dire, c'est le parti pris de sainteté qui s'oppose aux tendances naturelles. Et malheureusement, on a pris l'habitude de croire que c'est ça la sainteté et que ça. C'est une première forme de la sainteté. C'est un tremplin pour la sainteté de l'unité des valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Et alors, on est habitué, je vais en parler en sociologie juive. Et tout cela, c'est l'enseignement durable. Je n'ai pas besoin à chaque mot de vous dire que c'est Rafou qui parle. C'est que on s'est habitué finalement, et peut-être par imitation inversée parfois, par imitation repoussée de la conception de la sainteté des goyim que j'ai schématisé un peu tout à l'heure, à croire que le parti pris de sainteté, c'est s'opposer à la nature, et que c'est dans l'opposition à la nature que la sainteté apparaît. Et ça fait des dégâts, ça fait des dégâts. Et surtout, c'est en dehors du monothéisme. Parce qu'on oublie que la nature, c'est Dieu qui l'a créée. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, ce fait de dualisme n'est pas juif du tout. Mais il y a une phrase dans le Talmud, que je vous expliquerai encore après, qui dit ceci, et le Rambam, Nachmanide, base toute sa définition de la Kedusha là-dessus, « Kadesh et Atzmecha, Bema Shemutarlach » Il y a le permis et l'interdit. Eh bien, quand est-ce que, où est l'engagement de sainteté? C'est dans le domaine de ce qui est permis. C'est-à-dire être plus strict dans le domaine de ce qui est permis. Mais ça ne veut pas dire s'opposer à, ça ne veut pas dire contre. Je ne sais pas si c'est clair. Par exemple, c'est permis de manger. C'est permis de manger, ce n'est pas interdit de manger. Mais il y a une manière de manger qui est sainte et une manière qui est grossière. Alors c'est dans ce qui est permis, manger. Et toutes les jouissances sont dans ce cas, peuvent être véhicules de la sainteté dans la manière de se comporter. Mais avoir le parti pris de sainteté pour dire se priver de, annuler, assassiner, comment dire, anéantir la tendance naturelle, ça c'est déjà suspect. C'est déjà autre chose. Je ne sais pas si c'est clair. Hein? Et là, il faut faire appel précisément aux médecins. Aux médecins, je crois qu'au Moyen-Âge, on disait les médecins de l'âme. En hébreu, ça s'appelle refait nefesh. Parce qu'il y a un défaut du psychisme qui est la cause du défaut spirituel. Je pense que c'est suffisamment clair, c'est pas la peine d'analyser plus. Il faut bien faire attention à cela. Il y a des comportements apparemment religieux de sainteté exagérée, déjà exagérés, j'ai condamné, okay, qui sont en réalité des comportements psychiques. Des comportements psychiques qui sont habillés de religiosité, et ça se fait prendre pour la sainteté. J'ai l'habitude de dire, de façon peut-être un peu dure, mais malheureusement il faut le dire, parce que nous fréquentons trop de gens comme ça, et quand quelqu'un qui est religieux est maniaque, on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Est-ce qu'il est maniaque parce qu'il est religieux, ou est-ce qu'il est religieux parce qu'il est maniaque? Réfléchissez bien à ça. Parce que, d'une façon générale, tout comportement rituel, quel qu'il soit, risque de mener à la maniaque. Tout comportement rituel, quel qu'il soit, religieux ou pas, ça risque de mener à la maniaque. Alors s'il y a un terrain psychique atteint, on risque de se tromper et de croire que ce qui est en réalité de l'ascétisme d'origine psychique serait de la sainteté. Vous voyez, là encore, il faut distinguer entre l'ascétisme et la sainteté. Mais je crois que la clé, c'est un peu ce que j'ai signalé tout à l'heure. L'option à l'échelle individuelle peut être légitime. C'est quand elle veut se présenter comme le modèle de l'idéal religieux que ça devient hérétique. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. C'est ça qu'il faut toujours retenir. Bien, il y a d'autre part une... Donc, cette première définition du cadeau, c'est le parouche. Mais, attention, je vous cite la Gemara à ce sujet. Le pharisien était parouche, séparé de l'impureté, pas de la communauté. Et voilà l'échec, quand on bascule dans cette erreur, que pour se séparer de l'impureté, et c'est le propos, je vais dire, positif de l'option de pharisaïsme étymologique, hein, alors on se sépare de la communauté. Ça, c'est l'échec. Et là, c'est parouche minatouma. C'est pas parouche minatibour. Aporesh minatibour, kofer baïka. Vous voyez à quel point tout ça, c'est très délicat. Okay. Alors ça, c'est dans la première définition, le premier niveau de l'option de sainteté. La sainteté, il faut pouvoir se récupérer, pour pouvoir s'affermir, s'affermir comme s'opposant à la nature. Dans tous les cas, il faut un guide, pour tous les comportements religieux d'ailleurs, il faut un guide. Et puis, il faut savoir que ce n'est qu'une première étape. La deuxième étape, c'est la sainteté qui s'unifie avec la tendance naturelle. C'est beaucoup plus haut. C'est-à-dire, lorsque la tendance naturelle et l'exigence de sainteté vont dans le même sens. Je vais vous donner un exemple. Un exemple privilégié, d'ailleurs, chez les rabbins, chez les auteurs en général, chez les moralistes, je veux dire, juifs, bien sûr. Pas tous les rabbins sont moralistes. Pas qu'ils ne sont pas moraux, mais ils ne sont pas moralistes. Je ne sais pas si vous avez la différence. Moussarisant. Okay. Chez les moralistes, c'est l'exemple du mariage. Vous avez une option de type religieux qui n'est pas du tout juive, qui a sa cohérence propre, qui est une option d'ailleurs de type ascétique, qui consiste à réputer la conduite de mariage, disons premièrement donc la conduite sexuelle, comme étant impure et comme étant irrémédiablement profane. Et par conséquent, l'option de sainteté serait le célibat. Eh bien, ça, pour la Torah, c'est l'abomination de la désolation. Okay. Il y a une conduite de la sexualité qui est la sainteté elle-même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on est sur deux bords d'abîme, comme de différence. Comment s'appelle le mariage en hébreu? Ça a plusieurs noms. Kiddushin. Et comment traduirait-on en français? Faites attention, le sacrement du mariage, le sacré. C'est pas du tout ça, c'est pas un sacrement. Hein. Pour une fois, je pense à sacré Charlemagne. Mais c'est la consécration réciproque. On est consacré l'un à l'autre. Et au fond, le prêtre chrétien, lorsqu'il pense au sacrement, pense aussi à ça. Simplement, le vocabulaire est païen. Parce qu'il est romain, tout simplement, parce qu'il est latin. Il y a d'autres noms du mariage. C'est, par exemple, Khatuna. On va faire un peu de d'ulpan. Khatuna, c'est la fête du mariage. C'est la fête, Nisui. Nisui, ça veut dire le supportement réciproque. On se porte, on se supporte. Bien. Cloulotte. Bon, ça, c'est dans les fiançailles. C'est entre les fiançailles et le mariage, ça s'appelle les cloulottes. Qui est la thiophie, ça veut dire on s'affine, Bon, bref, on va faire de la poésie. Mais c'est un sujet à poésie. Alors, voilà un exemple. Vous voyez, premier niveau d'option de sainteté, célibat. Deuxième niveau d'option de sainteté, plus haut, mariage cachère. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, on pourrait multiplier les exemples. Nous avons une Gemara. Je vais vous la citer comme ça, par allusion, qui définit l'identité de l'homme comme une identité dramatique, parce que donnée à des oppositions d'absolu contraire. C'est rattaché, il y a une description en quelques lignes d'une très grande densité de ce qu'un grec appellerait l'identité tragique de l'homme. Il n'y a pas de tragédie dans le judaïsme. Très rapidement, la différence, non, ça à de grands auteurs, dans la culture générale, c'est connu, c'est différent, la différence entre la tragédie, la dramatique et le drame, c'est rare. Dans l'histoire de la littérature, c'est la différence entre Racine et Corneille, si vous rappelez, c'est que la tragédie, c'est un drame sans solution. Alors dans le drame, il y a toujours une solution, ce que les dramaturges appellent le deus ex machina. Même si la solution apparaît comme magique, symbolique, mais il y a une solution. Bien. Et ce qui fait que le mot tragique ne fait pas partie du vocabulaire juif. Dramatique. Dramatique, qui est qu'on est donné à la sollicitation des contraires. Alors je vous schématise pour attacher à votre sujet. L'homme est constitué de la tendance au bien. L'homme est constitué de la tendance au bien et de la tendance au mal. Pour l'enseignement de la Torah, la tendance au bien n'est pas extérieure à moi. La tendance au mal n'est pas extérieure à moi, c'est moi. C'est moi qui veux quand je veux le bien, c'est moi qui veux quand je veux le mal. Je ne veux pas de la même manière, mais c'est moi qui veux. Et il y a toutes les nuances. Et alors, quand je fais le bien, c'est tragique, dirait un grec, c'est dramatique. Je parle français, alors c'est tragique. C'est dramatique parce que quand je fais le bien, il y a une partie de moi-même qui est mutilée. Quand je fais le mal, c'est l'autre partie qui est mutilée. Alors, je suis jamais heureux. Vous voyez à quel point c'est très intense comme analyse, et profond et simple, on ne veut pas tricher. Et puis, je ne vous donne pas les autres dimensions des dualités, il y en a plusieurs autres. Celle-là déjà, c'est assez énorme, effectivement. Il y avait un grand philosophe, Goy, je crois que c'est Nietzsche, est-ce que c'est Nietzsche? Peut-être, c'est peut-être lui, qui parlait du malheur de la conscience. C'est une expression à lui, c'est Nietzsche? Le malheur de la conscience. Et après lui, j'ai entendu un très grand philosophe juif qui était aussi un très grand poète. Mais il faut que son nom me revienne, il m'échappe. Il est mort depuis déjà une vingtaine d'années, mais après la guerre, c'est un des grands philosophes poètes français. Il était juif. Jean Val. Vous avez entendu parler de Jean Val? Oui. Jean Val, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Eh bien, Jean Val avait fait une thèse sur la conscience malheureuse. Alors, c'était ce sujet-là. C'est-à-dire que la conscience humaine est donnée au malheur parce qu'elle n'est jamais entière avec elle-même. Elle est sollicitée par des absolus contradictoires qui la constituent. C'est clair le problème. Alors c'est rattaché à une particularité grammaticale du verset qui parle de la formation de l'homme. C'est le verset 7 du chapitre 2 de Bréchit, vous pouvez vérifier. Le verset porte « Vaïtzer, Hachem Elokim et Adam, Afar Mina Adama, Vaïtzer est écrit avec deux yud. » Et Dieu forma l'homme, poussière de la terre. Ce format est écrit avec deux yud. Comme si en français, il y avait format avec deux F. Et alors, cette dualité est analysée par la Gemara, parce que pour dire la formation des animaux, il y a un seul yud. Vaïtzer avec un seul yud. Est analysée par la Gemara, dans cette espèce de condition dramatique de l'homme qui est sollicité par des absolus contradictoires. Et donc, le bonheur serait impossible. Le paradoxe, c'est qu'on trouve cette analyse dans la Gemara. Alors, il faut bien comprendre. Juste le passage qui suit parle du mariage. Alors, c'est l'exemple que je vais vous donner. Le mariage, kasher, c'est la seule conduite où ce que veut l'instinct du mal et ce que veut l'instinct du bien, c'est la même chose. C'est pourquoi c'est là qu'est la volupté. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit là. Okay. Et c'est vrai d'ailleurs en toute chose où, lorsque les deux contraires se résolvent dans la même conduite. Pour prendre d'autres dimensions de cette dualité, ce que ma nature veut et ce que Dieu me demande, c'est la même chose. Alors qu'en général, ce que ma nature veut, Dieu me demande le contraire. Et où est le drame? C'est que c'est Dieu qui m'a fait ma nature. Donc c'est inéchappable. Et ce que Dieu veut, ma nature demande le contraire. Mais d'afka dans le mariage, c'est la même chose. C'est pourquoi la Gemara dit, ne croyez pas que c'est des serments l'eau de rose. Hein? C'est très important, cette Gemara dit. La Gemara dit, il n'y a pas d'autre joie que la joie du mariage. Et je ne sais pas pourquoi je parle ça aujourd'hui, en tout cas, mazal tov pour ceux qui sont en question. Et parce que c'est précisément dans le...
Il faut lever le doigt, là.
À la base, c'est dans le comportement du mariage que l'unité se fait.
La solution du drame.
Bon, je ne vais pas rentrer plus dans... Effectivement, la solution du drame, c'est Dafka dans Chupa Vekedushin. Alors, c'est pourquoi vous avez toutes ces Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Hatan, Kol Kala, toutes les sept sortes de joie... qui sont évoqués, Dafka, Shiva Kolot, pour le mariage. Et tout le monde le sait, et on fait semblant qu'on ne le sait pas. Alors j'ai bien réfléchi, et ça, c'est un passage du Zohar. Et comment font ceux qui ne se marient pas? Ces prêtres qui ne se marient pas, comment ils font? Oui, je vous pose la question, mais il y a un Zohar là-bas derrière, que je ne vais pas vous citer, parce qu'il faut qu'on étudie la Torah. Comment ils font, je ne sais pas. Une fois, j'avais une discussion, j'étais jeune et insolent. Il est resté un petit peu. Non, c'est pas vrai, je suis très sérieux. Surtout la veille de Pessah. Il faut sortir le Hametz. Vous savez que le Hametz de l'orgueil sort par le front. Vous savez que c'est les mêmes lettres. Metzah et Hametz. Alors, il faut évacuer le Metzah avant Pessah. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, j'avais une discussion avec un jeune prêtre, puisque j'étais jeune rabbin. Mais comment vous faites pour comprendre le cantique des cantiques? Comment vous faites pour comprendre le cantique des cantiques? De quoi vous parlez quand vous lisez le cantique des cantiques? Il dit, on s'arrange. Vous avez compris? Alors, je reviens au sujet. Bien. Et donc, je citerai, pour terminer cette petite introduction, deux enseignements du Rav Kook sur lesquels il insistait beaucoup. Pour la première analyse, c'est que tout Israël était a priori voué à être Mamlechet, Kohanim et Gol Kadosh. Et par conséquent, il est arrivé ce qui est arrivé. Ça diffère ce niveau où tout Israël est donné à la sainteté des Kohanim, mais dans le principe, tout Israël est voué à la sainteté des Kohanim.